Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode dédié à Rawhammer, une vulnérabilité matérielle découverte par l'équipe Google Project Zero. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont ce soir Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Jean-François Audenin.
Salut.
Et moi-même, Johan Ulloa. Donc, dans les grandes lignes, Rawhammer, déjà, pourquoi ce nom ?
Contrairement à ce que tu as écrit sur Twitter, c'est Rawhammer. Et donc, en fait, ça consiste à marteler des lignes en bon français. Je ne sais pas comment le CERTFR a traduit ça, mais la traduction officielle, c'est martelage de lignes. Parce que les mémoires, en fait, sont organisées en lignes et en colonnes. Et donc, en fait, en écrivant tout le temps de manière très rapide dans la même ligne, tu peux induire des défauts dans le composant électronique. Et donc, provoquer des modifications d'état des bits. Et à partir de là, beaucoup de choses peuvent arriver.
C'est-à-dire, est-ce que tu peux... est-ce que ça conduit à de l'exécution de code, à une escalade de privilèges ?
Alors, en fait, cette attaque est plus ou moins connue depuis un certain temps. Tu peux le voir aussi bien à travers les publications de, je ne sais pas si on dit normes ou standards, mais sur le GDEC, qui est le groupe de travail qui fabrique tous les composants électroniques. En particulier, il y a un groupe de travail sur les mémoires. Ils ont déjà des contre-mesures. Tu peux voir aussi qu'il y a des brevets qui ont été posés il y a quelques années contre ça. Donc, c'est un truc qui est plus ou moins connu dans le milieu du hardware, mais jusqu'à présent, on pensait que ça faisait planter les PC. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des bits qui flippent aléatoirement, et puis en fonction de l'endroit où ça a flippé, tu as une erreur, une page web qui ne charge pas, ou carrément un blue screen, et voilà. Et l'apport de Project Zero là-dedans, c'est qu'ils ont... Enfin, d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est pas Project Zero qui a trouvé le bug, hein, c'est des gens... comme Marc Seaborn et Thomas Dullien qui ont analysé le bug et qui ont été invités à bloguer sur le blog de Project Zero à propos de ça. Fin de la parenthèse. Et donc l'apport de cette recherche, c'est que les gens se sont rendus compte que la faille, en fait, enfin le défaut pouvait être exploitable et se transformer en faille de sécurité si tu arrivais à agencer la mémoire de telle sorte que la modification du bit se passe à un endroit extrêmement intéressant. Et ce qui a été choisi comme endroit intéressant, c'est la table de page. Donc c'est un endroit utilisé par le système d'exploitation, par le microprocesseur carrément, pour stocker des informations sur l'allocation mémoire. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails parce qu'on risquerait de perdre les auditeurs.
Donc, pour imager, est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, tu es capable de stocker à un endroit de la mémoire de l'information et qu'en exploitant de la vulnérabilité, au lieu de faire pointer à l'endroit attendu, tu fais pointer vers ce que tu as positionné toi, enfin, ce qu'a positionné l'attaquant ? Ça a du sens ce que je dis ou...
Non, c'est à peu près ça. En fait, la mémoire, elle est de toute façon tout le temps allouée. Enfin, physiquement, je veux dire, tes barrettes mémoire, elles sont câblées dans la machine. Et elle stocke de l'information. Après, il y a des bits qui sont plus ou moins intéressants à modifier. Alors, il y avait eu une présentation, je crois que c'était à NoSuchCon l'année dernière, où un gars, je ne sais plus si c'était Alex Ionescu, expliquait, il avait présenté en fait trois failles dans le noyau Windows, et il y en avait une, en gros, il t'expliquait que si tu arrivais à mettre un bit à zéro, en gros, tu pouvais élever tes privilèges. Bon, là, la technique décrite sur le blog de Project Zero, c'est de modifier un bit dans une structure totalement critique du système qui est la table de page. Mais potentiellement, je suis certain que tu pourrais trouver d'autres endroits intéressants à modifier. L'avantage de la table de page, c'est que tu la contrôles plus ou moins en tant qu'utilisateur parce que tu peux, tu peux demander au système d'exploitation d'allouer des pages juste en faisant un malloc. Donc du coup, ça provoque la création d'entrées dans la table de page, qu'on appelle la PTE, Page Table Entries.
Et en fait, toute la subtilité, c'est de, en manipulant cette table de page, tu vas modifier les entrées de la PTE pour faire pointer sur une structure de description de la page, et donc cette table de page, elle fait le mapping entre un bout de la mémoire virtuelle versus la mémoire physique. Et vu que grâce à ce détournement, tu pointes vers une structure de mémoire que tu contrôles, tu es capable d'accéder virtuellement à n'importe quel espace de la mémoire physique qui est présente, et pas uniquement la mémoire physique que le système t'a alloué et qui te donne accès via ces blocs de mémoire virtuels. Il y a aussi une autre technique au niveau du native client, un peu la machine virtuelle qui est utilisée du côté Google. Là, c'est pas une manipulation de table de page, mais c'est tu utilises cette faille de Rohammer pour modifier des informations au niveau des instructions qui ont passé le test de vérification en amont au niveau de la machine virtuelle native client. Et tu vas faire un saut en désaligné à une adresse qui va te permettre d'accéder et d'appeler des appels système en direct, chose qui est typiquement interdite en amont par la machine virtuelle parce qu'elle s'assure que, bien évidemment, les instructions qui sont envoyées et introduites par lors du processus d'entrée du programme dès le départ, c'est interdit. Donc, en fonction du système, ça permet de faire différentes choses. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que on ne modifie pas directement un bit ou une information. C'est en fait le Rohammer, c'est en manipulant et en écrivant ou en lisant simplement, pas en écrivant, en lisant simplement des lignes dans un bloc mémoire. Et ben, ça influe indirectement au niveau électrique. Sur sur les bits qui se trouvent juste à côté. Et donc, on est vraiment sur un bug, un défaut hardware, entre guillemets, parce que normalement, quand je modifie des informations, quand je lis des informations sur le rang N plus 1 ou le rang N moins 1, et ben, ça ne doit pas modifier les bits. Ça ne devrait pas avoir d'influence sur les bits de la colonne N. Et là, ça en a.
D'accord. Et donc, ça conduit à quoi ? C'est de l'escalation de l'escalade de privilèges ?
Ah bah, ça peut être de l'escalade de privilèges, exécution de code, sortie d'un environnement sécurisé. Ça peut être une fuite mémoire, parce que ça, si tu as accès à toute la mémoire, aussi bien en lecture ou en écriture, via les manipulations de table de page, tu fais absolument ce que tu veux.
D'accord. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas expliqué pour les gens qui n'y connaissent absolument rien en électronique, c'est comment marche une mémoire, parce que ça, c'est assez fondamental pour comprendre le problème. Et donc, il y a des SRAM et des DRAM, donc des static RAM et des dynamic RAM. Et en fait, les dynamic RAM, en fait, c'est juste, pour résumer, c'est juste des condensateurs. Donc, du coup, on peut avoir une densité beaucoup plus grande sur la DRAM. Et c'est pour ça que quasiment toutes les barrettes mémoire des ordinateurs qui font plusieurs gigas sont construites en DRAM. Contrairement à la SRAM qui est basée sur des transistors et qui donc occupe plus de place sur les siliciums, mais qui garde les informations plus longtemps et qu'on utilise pour fabriquer en fait les caches du processeur niveau 1, niveau 2, etc. Et donc le problème de ces condensateurs dans la DRAM, c'est qu'ils fuient. Ne serait-ce que par effet tunnel, aujourd'hui avec les finesses de gravure, mais même de base, n'importe quel condensateur fuit. Et donc en fait ce qui se passe c'est que les mémoires sont rafraîchies. Donc ça, tous les gens qui font du tuning hardware ont déjà été dans leur BIOS modifier ces paramètres de refresh. Donc quand on a une très bonne mémoire, on peut mettre des paramètres de refresh plus lents et donc du coup gagner un petit peu en performance sur les accès mémoire. Et à partir de là, donc comme les condensateurs fuient, il faut rafraîchir le contenu de la mémoire régulièrement. Et le truc c'est qu'effectivement, en allant lire de manière répétée au même endroit et sans utiliser les caches du processeur, tu peux arriver à justement faire perdre l'information au condensateur alors que l'électronique de contrôle pensait que c'était encore bon. D'accord. Après, il y a un deuxième truc qu'il faut savoir sur les mémoires, c'est qu'il y en a un certain nombre qui sont dites ECC, donc Error Correction Code, où en fait il y a 4 bits qui sont utilisés pour vérifier 32 bits. Et donc ces mémoires-là, sont capables de détecter, enfin de corriger un bit d'erreur et de détecter 2 bits d'erreur. Donc, c'est des mémoires qui sont en général utilisées dans des serveurs assez haut de gamme parce qu'elles coûtent plus cher. C'est assez rare que des postes de travail utilisateurs en aient. Enfin, ceci dit, ça dépend de la qualité de fabrication. J'ai pas de statistiques sous la main. Et donc, ces mémoires-là peuvent détecter de manière électronique s'il y a eu une erreur. Enfin, s'il y a eu 2 bits qui ont changé d'état, ils peuvent le détecter. S'il y a eu 1 bit qui a été modifié, qui a changé d'état, ils peuvent le corriger. Donc ça, c'est pour fermer la parenthèse sur comment marche électroniquement une mémoire dans un ordinateur moderne.
D'accord. J'ai d'ailleurs vu une discussion de quelqu'un qui disait que cette vulnérabilité finalement n'était pas critique, puisque les mémoires ECC n'étaient pas impactées et que c'est en général sur des machines qui disposent de mémoire ECC sur lesquelles on trouve de l'information sensible.
Ouais, je serais pas aussi optimiste
N'est-ce pas?
parce que les ECC ont la capacité à détecter 2 bits, mais à partir de 3 bits, si tu enfin 3 bits dans la même ligne, suivant en fait, bon, c'est juste un CRC, enfin c'est un code de correction d'erreur en gros, hein. Donc si les 3 bits qui ont changé d'état sont, on va dire, bien choisis, ta mémoire elle détecte plus rien. Et le problème de Rohamer, c'est que, enfin, potentiellement, tu peux carrément endommager les composants électroniques. Donc, il y a plusieurs phénomènes physiques comme ce qui s'appelle le hot channel injection. En fait, l'injection d'électrons dans la jonction du composant par effet cinétique. C'est-à-dire que si l'électron a suffisamment de vitesse, il peut franchir la barrière de potentiel et rester piégé du mauvais côté de la jonction. Et donc, en fait, plus tu testes sur une barrette de RAM, potentiellement, plus tu l'endommages et donc plus après elle va avoir des bits flip. Donc, bon, les gens qui disent non, non, pas de danger, tout est sous contrôle, bon, jusqu'à ce que quelqu'un arrive avec une meilleure attaque, quoi. Comme disait un père de la crypto, les attaques ne font que s'améliorer.
Et puis, simplement pour compléter aussi, c'est que là, ECC, c'est une méthode qui permet de détecter et de corriger dans une certaine limite, comme Nico vient de l'expliquer. Il y a aussi une autre catégorie de mémoire qui s'appelle les barrettes LPDDR4, hein, pour Low Power DDR4, et qui en fait intègre de façon native des mécanismes de rafraîchissement des lignes mémoire dès qu'elle voit qu'il y a un certain nombre d'accès, un nombre d'accès donné qui a été fait aux lignes mémoire adjacentes. Donc elles vont forcer le rafraîchissement de la mémoire, donc ça va aller redonner un petit coup de booster au petit condensateur qui garde l'état des bits sur chacune des colonnes. Pour contrer en amont, et donc c'est la seule protection valable actuelle, du moins de ce qu'on connaît, contre des attaques de type Rohamer.
D'accord. Et alors, est-ce que tous les operating, est-ce que c'est indépendant de l'operating system?
Complètement. Complètement, là, ça peut même arriver dans ton frigo, hein. D'ailleurs, donc si tu regardes l'historique de la faille, en fait, ça a été plus ou moins médiatisé à l'été 2014 par des gens d'université américaine qui ont plus ou moins redécouvert la faille. Alors, je ne sais pas s'ils la connaissaient ou s'ils en avaient entendu parler, etc. Et donc, ils ont republié des trucs sur GitHub en disant, regardez, on arrive à faire planter les systèmes, machin. Donc, c'est un peu ça qui a démarré les recherches publiques, on va dire. Parce que sinon, si tu étais dans le consortium GDEC, ou que si tu lisais attentivement les spécifications de la DDR4, effectivement, il était déjà question de ces attaques type Rohamer. Mais à partir de là, il y a eu une thread sur Reddit, assez intéressante, comme la plupart des threads Reddit d'ailleurs, où les gars expliquaient qu'en fait, ce phénomène s'était déjà produit sur Commodore 64, où les mecs avaient fait des démos totalement extrêmes. Qui faisait planter la plupart des Commodores. Par contre, quand ça tournait dans l'émulateur, ça plantait pas. Et donc, personne n'avait jamais réussi à comprendre pourquoi ça plantait. Jusqu'à ce qu'un gars, en fait, branche un analyseur logique sur son Commodore et arrive à capturer, en fait, le moment où la machine se met à planter. Et à l'époque, déjà, ils avaient conclu que la cause était une défaillance mémoire, mais ils n'avaient pas su expliquer l'origine. Enfin, bon, en gros, ils avaient attribué ça à une surchauffe ou un vent solaire ou quelque chose comme ça. Et en fait, la vérité, c'est que quand tu faisais déjà des démos il y a 30 ans sur des machines, si tu poussais la limite, enfin, si tu poussais la machine à la limite de ses spécifications, tu avais déjà des bitflips qui étaient observés. Ça a été prouvé sur le Commodore 64. Donc, c'est totalement indépendant de la machine. C'est vraiment lié à la physique des composants électroniques. À la limite, c'est plus dépendant de ton vendeur de barrettes mémoire que de ton fabricant d'operating system.
D'accord. Donc pour savoir si son PC est vulnérable, en fait, il faut l'ouvrir, regarder quel type de barrette de RAM on dispose à l'intérieur.
Globalement, il y a un code de test hein, qui a été publié, donc tu peux déjà le faire tourner sur ta machine. Ensuite, si tu as peur d'abîmer tes barrettes de RAM, sinon tu vas dans ton BIOS et tu essayes de voir un peu qu'est-ce qui est activé comme option. Justement, quel est le type de DDR que tu as? Est-ce que c'est de la DDR3, DDR4? Est-ce que tu as du simple refresh ou du double refresh? Est-ce que tu as est-ce que tu as de la mémoire ECC, des trucs comme ça, quoi. Enfin, globalement, sans tester, c'est quand même assez dur de savoir si tu es affecté ou pas.
Et donc tu disais que le test risque d'endommager quand même ta mémoire.
Ouais, bon, après, si tu lances le test pendant 1 heure, ça va pas non plus prendre feu, hein. C'est juste. Non, mais si tu fais un test en disant, tiens, je vais faire tourner jusqu'à ce qu'il y ait un bitflip et que tu laisses tourner pendant des semaines, potentiellement, je sais pas ce qui peut se passer, quoi.
D'accord. D'accord. Et alors, selon vous, est-ce que ça ouvre une porte vers un nouveau type de vulnérabilité?
Ouais, je pense que ça fait quand même quelques années qu'on assiste à les attaques vont de plus en plus vers le silicium. Si tu regardes les conférences Black Hat et autres ces dernières années, tu as de plus en plus d'attaques qui consistent à décapsuler des chips, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau logiciel, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été étudiées, il y a déjà beaucoup de contre-mesures qui ont été mises en place par les fabricants d'OS, de compilateurs et autres. Bon, je pense que il y a de plus en plus de gens qui reviennent au hardware. Il n'y a qu'à voir aussi le succès de l'Arduino, des choses comme ça. L'USB Armory, là, qui vient d'être fabriqué par Andreas Barisani. Enfin, et les gens reviennent plus près du matériel et finalement, je pense qu'il y a encore des choses à découvrir dans les couches basses, quoi. Après, bon. Le problème du matériel aussi, c'est que ça se fait vraiment entre vendeurs. C'est-à-dire que si tu es dans les consortiums, tu as accès aux documents, etc. Mais par contre, si tu es en dehors, tu pars de zéro, quoi. Bon, juste pour préciser sur Native Client, c'est une technologie qui est utilisée entre autres pour descendre des plugins sur Chrome. Donc il y a deux versions de Native Client, qu'on appelle NACL, enfin NACL en raccourci. Il y a la version NACL et PNACL. Donc, NACL, c'est la version d'origine. L'idée, c'est en gros, tu compiles du code natif. C'est comme ActiveX, hein. Sauf que le problème d'ActiveX, c'est que tu compiles un exécutable et tu l'envoies sur un poste Windows. Donc, potentiellement, il fait ce qu'il veut. La différence avec NACL, c'est que tu compiles et le compilateur utilisé, en fait, n'utilise qu'un sous-ensemble des instructions Intel qui sont considérées comme sûres et prédictibles. Et donc, au moment de l'exécution côté client, en fait, l'environnement d'exécution peut vérifier que le code va faire, enfin, ne va pas essayer de sortir de ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, il va pas faire des appels système, etc. Et la technologie PNACL est un petit peu différente. En gros, là, il t'envoie plus du code x86 côté client. Il t'envoie carrément de la représentation intermédiaire à l'LVM et la compilation s'effectue sur la machine du client. Donc, l'avantage, c'est que tu sois sur x86 ou sur ARM, en fait, t'as pas besoin de réécrire tes plugins. T'envoies directement la représentation intermédiaire de LLVM. Alors, le problème avec NACL, c'est qu'effectivement, l'instruction CLFLUSH était considérée comme sûre et qu'elle facilite Rohammer parce que tu peux bypasser les caches avec cette instruction. Donc, du coup, ça veut dire que potentiellement, en descendant un plugin dans un Chrome, tu pouvais tenter d'exploiter la faille.
D'accord.
Après, ce qu'il faut voir, c'est que CLFLUSH n'est pas la seule instruction qui permet de bypasser les caches. En fait, il y a tout ce qui est en fait ce qu'on appelle, enfin je sais pas comment on traduit en français, mais les non-temporal hints, donc les indications de non-temporalité qui disent au processeur, en fait, voilà, cette valeur que je vais lire ou écrire, j'y accéderai plus jamais après. Donc, tu peux ne pas la mettre dans le cache. Et donc, c'est les moves DQLNT, je sais pas quoi, en assembleur Intel, des instructions que peu de gens utilisent. Mais bon, self-flush n'est pas la seule solution pour bypasser les caches sur Intel.
Donc,
Donc, pas grand-chose, à part que les gens qui disent tout est sous contrôle, on n'est jamais à l'abri que quelqu'un sorte avec une meilleure attaque.
d'accord.
Ah oui, et si ça, et aussi pour rajouter, ça n'a rien à voir, mais si vous voulez détecter l'une des méthodes pour détecter si vous êtes si votre système est sous attaque d'un raw hammer. L'une des pistes, c'est d'utiliser en fait les compteurs de performance intégrés au niveau des CPU pour voir le nombre d'appels qui ne passent pas dans le cache. Parce que c'est tout à fait c'est ça en fait qui est utilisé par Rohammer pour forcer l'accès successif et répété à des mêmes emplacements mémoire. Donc ça
Pardon,
peut
pour la
servir d'IDS et compagnie, mais alors après, bon, que faire, faux positif, ça n'a pas l'air très très fiable. Mais encore une autre piste pour les ultra-parano, quoi.
Donc c'est le ratio d'appels qui passe pas par le cache à surveiller.
Tout à fait. Bon, mais ça vaut pas grand-chose comme ça, moi, à mon avis, hein. Ça me paraît un
Et
peu, ça me paraît un peu douteux, hein. Pas efficace, quoi, du moins.
quid de la problématique sur les hyperviseurs, est-ce que ça ouvre un potentiel pour les attaquants.
Sur un hyperviseur, si tu arrives à jouer avec les page table entry, potentiellement, tu peux lire toute la mémoire physique du système, donc tout est possible. Hein. Mais ça serait, c'est effectivement, il y a assez peu j'ai pas été creusé, mais assez peu d'informations sur le sujet. Mais là, c'est si ça veut dire qu'on peut aller taper dans du VM Escape ou autre joyeuseté. Ce qui est déjà un petit peu le cas avec du native client, hein, tu sors d'une machine virtuelle hein, dans une certaine mesure, quid d'un ESX, d'un KVM ou ce genre de choses, why not?
Enfin, l'impact sur le native client, a priori, ça reste uniquement utilisé en termes de plugin navigateur. Je veux dire, sortir d'un plugin navigateur, bon, tu vois, il y a Java, Flash, etc. Par contre, sortir d'un hyperviseur chez un hébergeur mutualisé, c'est en termes d'impact, c'est un peu plus catastrophique, quoi.
Je suis tout à fait en phase avec toi, ça n'a absolument rien à voir, mais la question reste ouverte. Et en fait, mais ça peut être ça. Est-ce que ça pourrait être une extension et ça vaudrait le coup d'aller faire quelques recherches pour voir vers où ça pourrait déboucher. Après, il faut savoir hein, que pour lancer ce type d'attaque, hein, il faut quand même faire du, enfin, il faut trouver des adresses, aller lire ou écrire des adresses mémoire qui sont adjacentes à une autre adresse mémoire intéressante qui se trouve sur le même chip physique sur une seule et unique barrette mémoire. Donc les conditions d'exploitation dans un environnement virtualisé, je sais pas comment mapper de la mémoire virtualisée au niveau d'un hyperviseur par rapport à la mémoire physique et être capable de prédire vers quelle adresse on va aller dans laquelle on va faire du raw hammer, c'est le point se trouve peut-être là, le plus compliqué. Bien que pas impossible a priori.
De toute façon, le point clé, c'est le contrôle de la mémoire. Après, je pense que si tu vas chez un fournisseur de cloud et que tu prends les instances les plus grosses, il est peu probable que ton instance elle soit mutualisée avec quelqu'un d'autre, c'est quasiment de la machine dédiée. Donc à partir de là, je pense que tu dois pouvoir commencer. Enfin, si tu arrives à flipper des bits, ça va forcément être dans l'espace de. Enfin, tu vas le voir dans l'espace de ta VM. Et après, si tu arrives à évader l'hyperviseur sur la machine sur laquelle tu es hébergé, potentiellement après tu peux faire des trucs intéressants. T'es pas forcément colocalisé avec des VM d'autres clients, mais enfin. Si t'es dans le réseau d'administration de l'hébergeur, tu commences à faire des trucs, quoi. Mais bon, c'est clair que on va creuser.
Ok, bah je pense qu'on a fait le tour. Jeff, tu vois des choses à ajouter?
Bah non, à moins de si vous avez des super barrettes mémoire, appelez votre revendeur chéri et vous lui dites il y a un bug dans mes il y a un défaut de fabrication dans mes barrettes mémoire, changez-moi mes 16 gigas ou mes 32 gigas de RAM super cher, et surtout demandez de la LPDDR4. Et si vous voulez jouer juste avant, bah vous pouvez toujours vous amuser, comme on l'a évoqué en tout début, passer la vitesse la fréquence de refresh de 104 millisecondes à 32 millisecondes. Ça vous donnera un petit peu plus d'assurance de ne pas être moins exposé, bien que ça ne soit pas complètement efficace.
Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut!
À bientôt.
Salut!